acheter tes billets pour le festival Vue sur la Relève qui fête sa 23e édition.
C'est quand ?
Du 8 au 19 mai.
Oh, c'est où ?
Au Monument National et au Ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs gratuits à la place des festivals.
On est Minuit moins une, théâtre. Et on participe à Vue sur la Relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québecor.
On vous attend. Billets, vuesurlarelève.com.
Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxmo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, c'est Créature de la Nuit. Bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. Je me présente votre animateur, Simon Predge.
Non, qu'est-ce que t'as dans ta bouche, Simon?
C'est
louche.
Je me suis fait enlever une dent de sagesse.
Ah, pauvre petit loup.
Non, j'exagère, là, c'est pas si pire que ça, mais je me suis effectivement fait enlever une dent de sagesse. Alors, j'aurais besoin de votre aide parce que je peux pas trop m'énerver. Mm-hmm. C'est tout frais. Ça a été fait hier. J'ai encore le goût de sang dans le fond de la gorge. Quoique ça, ça fait longtemps. Je ne serai pas seul dans cette aventure, bien heureusement, parce que j'ai vraiment pas...
Les pointus vont sauter.
C'est con. Faites-moi pas trop rire, les gars, aujourd'hui.
On va essayer.
Alors, on a avec nous le spécialiste en denturologie, Olivier Bigonès. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ce soir, vous nous parlez d'orthodontie.
Oui.
D'accord. Ben non. On a aussi Éric de Horreur Québec. Bonsoir.
Bonsoir. Spécialiste de la bouche.
Spécialiste de la bouche. Et on a le chiropracteur de la dentition, Simon Laperrière, qui est avec nous.
Salut, Simon.
Comment tu vas?
Ça va très bien. Moi, j'ai une confidence à te faire.
Déjà?
Je suis né sans dents de sagesse.
Oh, j'en veux.
Je le savais, ouais, que t'étais mutant à, ouais, ta façon. Comment ça, t'as pas de dents de sagesse?
Ben, il semblerait qu'il y ait de plus en plus d'individus qui naissent sans ces dents-là parce que, comme elles ne servent à rien, l'évolution darwinesque a décidé qu'on va perdre ces dents-là. Donc, les générations futures n'auront pas ces dents. Donc, je fais partie de la race supérieure. C'est bien la seule chose qui fait en sorte que j'en fais partie, ceci dit.
Mais quoique, je suis content que tu partages avec nous parce que, tu sais, on le sait que le corps a évolué à travers les siècles, puis on a perdu des affaires qu'on n'avait plus besoin. Ça a l'air qu'on avait une queue à un moment donné. Mais qu'on soit témoin de notre vivant, d'une certaine évolution, ça, je trouve ça impressionnant, je trouve ça hot. Fait que, félicitations, Simon, on est fiers de toi.
Fait de science, semblerait qu'éventuellement, l'appendice serait mené à disparaître, parce que pourquoi on a ça dans le corps, ça fait juste nous tuer.
Ouais, effectivement. Effectivement.
Bon, bon, Dieu, ben, on se croirait à Découverte.
Oui. Alors, bienvenue à Découverte. Non, c'est pas vrai.
Chantissaire,
fascinant, tout simplement fascinant. Ben non, on va pas parler de science ni de dentition aujourd'hui, quoique on verra bien ce que nos deux comparses nous ont amené aujourd'hui. Tout d'abord, on s'excuse, hein? On vous,
oui,
a délaissé un peu dernièrement,
dernier temps.
C'est pas volontaire. Là, on a sauté quelques épisodes, mais vous savez ce que c'est, hein? La vie.
C'est la vie.
Ben oui,
puis
comme c'est gratuit, hein, puis que personne n'est payé, ben quand ça donne pas, ben c'est ça. Des fois, on vient pas. Des fois,
c'est pas payé? OK.
Je pensais que tu le savais. Mais non, mais ça arrive. La vie étant ce qu'elle est, des fois, ben il faut sauter des semaines. Puis bon, c'est arrivé souvent dernièrement, mais on va se reprendre là. On va essayer de pas vous manquer. On va vous rentrer dedans solide. Ceci étant dit, Simon Laperrière, ça fait longtemps que t'es pas venu au show.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui se passe avec toi? Quoi de neuf?
Beaucoup de choses.
Ça, tu travailles... en fait, peut-être tu pourrais nous rappeler pourquoi tu... En fait, sur quoi tu te concentres en ce moment? Parce que, bon, on sait qu'on se souvient que tu n'es plus programmateur à Fantasia pour te concentrer sur...
Ben d'abord sur cet hiver monter un cours, que, ce qui a été une première expérience assez à la fois éprouvante et tellement valorisante. Je pense que ça s'est bien passé. Je veux pas donner un guide pédagogique sur comment j'ai appréhendé la matière qu'on m'avait demandé, mais côté extrait, j'aurais montré Day of the Dead, j'aurais montré It Follows, et pour comprendre la notion d'auteur pour de vrai, j'aurais montré du Neil Breen.
Nice.
J'ai montré deux extraits de films de Neil Breen dans deux cours différents. Je pense, je suis très heureux d'avoir permis à Neil Breen de rentrer à l'université. C'est vraiment un grand accomplissement de ma part. D'ailleurs, la seconde fois que j'ai montré du Neil Breen, c'est au début de ce cours-là, on ouvrait avec Godard. Donc, on est passé de Godard à Breen. Et ça représente tellement bien ma cinéphilie que j'en suis ravi.
C'est hot.
Grâce à ce cours-là, j'ai pu revenir sur le sujet de ma thèse de doctorat qui aborde les théories des fans, ainsi que le phénomène de la surinterprétation, donc à savoir comment certains spectateurs vont accorder un sens qui est disproportionné à certains films, certaines œuvres de la culture populaire. D'ailleurs, j'ai vu Avengers aujourd'hui et je suis persuadé que ce soir, quand je vais aller sur les forums, j'ai trouvé beaucoup de choses de la part de mes fans qui oui. vont...
Beaucoup de théories que les réalisateurs ont peut-être même pas pensé en le faisant.
C'est très très rare qu'ils se pensent. Mais d'ailleurs, j'ai une nouvelle de fun. J'ai su aujourd'hui que Macaulay Culkin était au courant de la fan theory sur Home Alone qui voulait que son personnage, en vieillissant, devenait Jigsaw. Et il était wow. ravi de cette lecture. Il l'endossait pas officiellement, mais on sentait que l'idée lui apparaissait amusante.
C'est hot.
Et okay. en plus de ça, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai travaillé sur un livre qui porte sur les liens entre Bob Dylan et le cinéma. Donc après avoir amené Neil Breen à l'université, on amène Bob Dylan aux oubliettes.
Ah, c'est donc bien cool. Ben oui, tu disais que tu avais une exclusivité. Là, ça s'en vient, ça. Là.
Oui, ça va sortir en juin en France aux éditions Rouge Profond.
OK, là, va falloir qu'on se réveille ici, parce qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, que ce soit à Montréal ou juste au Québec, on le sort ailleurs avant. C'est quoi cette histoire-là? Je comprends que c'est la publication, c'est l'édition, c'est autre chose. Mais pourquoi nous autres, on n'est pas capable de pousser nos créateurs ici? Il me semble que ça va faire.
Je pense que, bon, dans le cas de ce projet-là ouais. en particulier, ce qui est arrivé, c'est que j'ai contacté moi-même l'éditeur.
OK.
Il y a plusieurs années de ça, avant même que je travaille sur le livre Bluny, Histoire d'une cinéphilie nocturne avec Éric Falardeau, j'avais ouais. déjà le projet de faire un livre sur okay. Bob Dylan et le cinéma. Et quand l'artiste a remporté le prix Nobel, j'ai relancé l'éditeur qui m'est revenu en disant « Ben, faisons-le, c'est le temps de le faire » et on a mis main à l'ouvrage.
OK, OK, d'abord.
Donc, c'était pas... j'avais pas... En fait, il aurait été français, il aurait été belge, il aurait été suisse. J'aurais voulu travailler avec Guy Hastic de Rouge Profond parce qu'il fait des livres extraordinaires.
OK.
C'est dommage qu'on n'ait pas l'équivalent au Québec.
Ben, on n'a jamais l'équivalent au Québec. C'est ça qui est fatigant. On a le talent.
On a le talent.
Mais on n'a aucune... Oui, oui. Côté production, ça fait dur.
Du côté de l'édition ouais. De livres sur le cinéma, il y a l'Instant Ciné qui fait de très, très, très beaux livres. Mais il y a assurément un manque. Il nous faut... plus d'éditeurs, il nous faut une collection qui pourrait être l'Instant Ciné ou qui pourrait être autre chose que l'Instant Ciné, mais qui publierait plus d'ouvrages sur le cinéma. Ça, c'est une vraie lacune, je trouve, dans le paysage éditorial du Québec.
Je suis d'accord. Ben, ceci étant dit, on va attendre sa sortie. Peut-être qu'on te réinvitera pour qu'on en parle plus en profondeur. On va pas le spoiler avant sa sortie, bien entendu. Donc aujourd'hui, tu es venu nous parler d'un film chez Divine. l'occasion de jaser d'un film, et je dois l'admettre, j'ai dit à Simon, parce que je sais que ça fait partie de ses spécialités en termes de cinéma, j'ai dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'érotisme aux oubliettes. Fait que si ça peut t'inspirer, lâche-toi lousse. Et tu nous as choisi quelque chose. Qu'est-ce... Ah, ben attends, là, si on parle d'érotisme, par contre, hein, on va faire les choses comme faut.
Le film que vous allez voir comporte des scènes de nudité qui ne conviennent pas à tous les auditoires. Nous préférons vous en avertir.
Parfait. C'est quoi le film que tu nous présentes aujourd'hui, mon Simon?
Eh bien, c'est un film dont, au départ, j'ignorais l'existence. Et c'est en faisant mes recherches sur les apparitions de Bob Dylan au cinéma. Parce que Bob Dylan, bien qu'il ait été un... et qu'il est encore un très mauvais comédien. Il a joué dans plusieurs films, et parfois, ses apparitions surprennent. Il y a, par exemple, vous souvenez-vous de la série Dorman Greg?
Je l'ai pas vu, mais ouais, je me souviens de ça.
Le sitcom de Chuck Lorre qu'il a produit avant Two and a Half Men, eh ben, il y a un épisode avec Bob Dylan dedans. Et c'est complètement incompréhensible. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Alors, le film que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un drôle d'objet, et je pense que c'est un film sur lequel on peut se poser la même question. Qu'est-ce que Dylan fout là? il s'intitule Backtrack. On le connaît également sous le nom de Catch Fire. Film réalisé en 1990 par Dennis Hopper,
oui.
Le fameux acteur de Blue Velvet, de Easy Rider, icône de l'Amérique, qui a réalisé, Dennis Hopper a réalisé Easy Rider, mais il a réalisé plusieurs autres longs métrages, dont ce Backtrack qu'on m'avait recommandé parce qu'il y a une apparition de Bob Dylan. Donc je suis venu pour Bob, je suis resté pour le film. C'est une œuvre complètement démentiel.
Ah ouais.
J'ai rarement vu un film aussi sauté que ça. Donc, qu'est-ce qu'il y en est? On suit une jeune femme qui est interprétée par Jodie Foster, et là on est en 90.
Ouais, 1990.
Elle a gagné son Oscar pour The Accused.
Oui, mais elle est pas encore la...
C'est pas superstar.
C'est pas encore, c'est ça, exactement. C'est ça. Et là, c'est intéressant de la voir dans ce rôle-là, parce que d'abord, elle est très très jeune, mm-hmm. et on la voit dans un contre-emploi. Elle joue la femme fatale. Donc là, ce n'est pas la femme froide de Silence of the Lambs, qui est un rôle qu'elle a quand même repris par la suite dans sa carrière. Mm-hmm. C'est de la jeune femme qui fait usage de son corps pour séduire, et qui est témoine d'un meurtre commis par des mafiosi. Alors, les mafiosi vont engager un tueur à gages pour la retrouver, Dennis Hopper, qui est interprété par Dennis Hopper, et Hopper, justement, pousse au paroxysme son rôle dans Blue Velvet. Là, on a littéralement un immense pervers envahi par des démons qu'il est incapable de maintenir. Mais ce qui rend le film fascinant, c'est que, alors que dans Blue Velvet, Dennis Hopper est un marginal, c'est relativement parlant le seul personnage qui est habité par une violence pareille, dans Backtrack, tous les personnages le sont. Donc Hopper, en quelque sorte, est normal dans la marée de fous furieux qu'il va croiser sur la route, parce que il va trouver le personnage de Jodie Foster, va l'enlever, la séquestrer, et dans ce film qui ne pourrait plus se faire aujourd'hui parce que ça fait en quelque sorte l'éloge du syndrome de Stockholm, les deux vont tomber amoureux l'un de l'autre. Il y a une scène d'ailleurs où Foster séduit Hopper tout simplement en mettant ses collants. Et elle est clip. Et on a le son de clip, clip. Et Hopper vire complètement fou. Et là,
tu disais des tacs, là. Ouais, les tacs. Une agrafeuse, là.
Non, mais les boutons.
Les clips. Ok, oui, c'est ça, comprends. C'est ça.
Elle enfile ses collants. Et elle fait claquer la courroie de ses collants sur la peau. Et Hopper vire complètement fou. C'est là qu'on comprend que Foster est loin
d'une victime.
D'être une petite nature, disons. C'est loin d'être une victime. Et elle a le contrôle sur Hopper. Et ensemble, ils vont décider de dévier de la mission du tueur à gages pour tenter de vivre leur amour impossible, dangereux, dans une Amérique qui l'est tout autant. Et sur leur route, ils vont croiser un paquet de personnages. C'est, là, ici, on a vraiment affaire à ce qu'on appelle le film de club vidéo qui a été popularisé par Quentin Tarantino. Le film qui regorge de références, qui a pas peur d'être très, très excentrique dans la façon de présenter son récit, qui regorge de dialogues qui surprennent par leur trivialité. Les personnages parlent de n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un film qui a été fait avant Reservoir Dogs. Mm-hmm. Et on dirait que Tarantino a jamais réussi à dépasser les bornes proposées par Dennis Hopper. Donc, c'est comme si Hopper avait anticipé le cinéma de Tarantino et avait décidé d'aller encore plus loin. Et parlant de personnages, alors, le film, comme dans les films de Tarantino à venir, regorge caméo. On a droit à Charlie Sheen, on a droit à Vincent Price, chef de mafia, avant qui apparaissent dans Edward Scissorhands. Mm-hmm. Et contre toute attente, on a Bob Dylan. Le personnage de Foster est une artiste et en prenant la fuite, Hopper va aller rencontrer diverses personnes qui la connaissent, dont cet homme qui parle de façon à ce qu'on comprend absolument rien de ce qu'il dit, qui fait des sculptures à la scie mécanique. Mais c'est un vrai hobby de Bob Dylan. Bob Dylan fait vraiment des sculptures à la tronçonneuse, à la soudeuse. Oui. Et là arrive cette scène où on a Dennis Hopper face à Bob Dylan, deux symboles de l'Amérique. Pour le cinéphile, c'est absolument extraordinaire. De quoi vont-ils parler? D'absolument n'importe quoi. Et on sent vraiment que là, les deux ont du plaisir à se moquer des attentes du public. Dylan parle des banques, explique qu'il se méfie de ça, de ces choses-là, parce que c'est trop concret. Et finalement, Hopper, étant incapable de lui soutirer des informations, va juste hurler « Fucking artist !» et quitter l'atelier de Dylan. Et Dylan ne revient plus du reste du film.
Mais il sert à rien. C'est un caméo.
Mystérieusement, Dylan a accepté d'apparaître dans le film. Personne, évidemment, pouvait dire non à ça. Mais par la suite, Dylan est assez tôt dans le film. Ça vaut la peine de rester pour la suite des choses. Il y a une scène de fusillade qui est dans un restaurant qui est complètement démente parce que Hopper, c'est un pro de la gâchette, mais il refuse d'abandonner le taco qu'il a commandé. Donc il va le garder en main et il tire en mangeant en mangeant son taco. Et comment est-ce qu'on conclut un film pareil? Avec la fin du monde. Je veux pas trop en dire, mais c'est l'apocalypse qui surgit à la fin de cette œuvre mal vu, qui a eu droit à quelques diffusions en salle de façon très 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 éparse. Le montage que j'ai vu serait désapprouvé par Dennis Hopper, même que de mémoire il était signé Alan Smithy. Donc il y aurait une version plus longue qui existe, j'ai pas pu mettre la main dessus. Il y a quelques DVD si on fouille un peu sur eBay, sur Kijiji, mais vraiment c'est un film qui gagnerait à être vu là. Il faudrait vraiment qu'un festival mette la main sur une copie 35mm, le présente, même si c'est un film qui, compte tenu de l'actualité d'aujourd'hui, serait probablement très 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 mal reçu par certaines critiques.
Cool, mais qu'est-ce que tu penses qui était la direction que Dennis Hopper s'était donnée avec ça? Parce que c'est lui qui l'a réalisé. Il en a réalisé combien de films, Dennis Hopper?
Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'on parle d'une dizaine de longs métrages. Okay, ça a toujours été des films où à peu près les mêmes thèmes revenaient. Le thème de la route, le thème de la folie. Hopper se mettait généralement en scène dans ces films-là. L'impression que j'ai, c'est qu'il souhaitait rendre un ultime hommage à ce type de personnage-là qu'il a interprété tout au long de sa carrière. Donc, il donne au personnage de Blue Velvet, le personnage de Frank, ses lettres de noblesse, en imaginant un peu le monde dans lequel il aurait dû exister. Cool. Et lui permettre de connaître l'amour.
OK. Effectivement, ben oui, je vois ça là sur IMDb. Il aura réalisé évidemment Easy Rider en 69. Ça, je l'ignorais. Il a réalisé Colors en 88. Et t'étais proche, il a réalisé 9 films, mais là-dedans, t'as 2 courts-métrages.
Ah.
Donc c'est intéressant. Ben moi, je connaissais pas ça, ce film-là. Tu me donnes envie, maudit.
Je suis passé devant le quand j'ai vu le poster. Je pensais là, ça c'était dans la section suspense des clips vidéo. Puis je pensais un paquet de fois tout à l'heure quand que Simon m'a dit oui, il va parler de Catch Fire. Je sais, c'est ça. Puis là, j'ai dit, ah ben oui, je l'ai.
On a reconnu la pochette. Loué,
mais j'ai reconnu tout de suite le film. Ouais, mais là, écoute, tu m'as vraiment donné un...
Probablement qu'on est tous passés devant, oui, mais, oui. Mais c'était une drôle de période pour les années 90 pour la distribution du cinéma de clubs vidéo, parce que les clubs ayant la place qu'occupe Netflix aujourd'hui se devaient de remplir leurs tablettes de stock. Donc, le cinéma indépendant était littéralement à portée de main. Mm-hmm. Et c'est ça qui a fait en sorte que des films comme Trainspotting sont devenus cultes, Requiem for a Dream. Ouais. La plupart des cinéastes américains qui ont commencé dans les années 90, s'ils ont eu droit à la popularité qu'ils ont aujourd'hui, c'est beaucoup plus à cause de la distribution sur vidéocassette que la distribution en salle.
Oui, parce que ben, on s'entend des films comme tu dis, Trainspotting ou Requiem for a Dream, où c'est pas des films de mon adolescence. Je te dis, ben, j'avais 18 ans à peu près. Oh, ouais. 7-18 ans. Puis c'était du bouche-oreille. Mm-hmm. T'as-tu vu Requiem
Exactement.
For a Dream?
Oui,
est-ce
oui.
que t'as-tu vu Trainspotting? Ou... Puis c'est comme ça que ça a gagné vraiment de la popularité. Mais c'est vrai, écoute, moi j'ai travaillé longtemps dans les clubs vidéo. Puis c'est vrai que on avait fait un club vidéo répertoire. Là. Écoute, tu venais, il y avait des films d'Argento, là. Il y avait, je t'ai dit. Et mais sur les murs, à un moment donné, on dit là, on va tout mettre ça dans les bins à 2$. Puis là, c'est juste des nouveautés. Partout, on enlève les VHS. Fait que tu vas avoir une copie de, je sais pas moi, Brise de Nice, ben tu vas en avoir 50 sur ton mur parce que c'est populaire, puis tout le cinéma, c'est vrai ce que tu ouais. dis, moi je l'ai vu, c'est dommage, mais pour ce petit film-là que tu parles, Catch Fire, ben, moi tu m'as donné faim, tu m'as donné goût
ah, ça vaut
ça.
La peine, mais vraiment, la belle découverte.
Ça, là, honnêtement, là.
Malheureusement, j'aimerais ça vous dire, comme à notre habitude, que le film est disponible sur la page de blog. Ouais. Malheureusement, celui-là n'est pas disponible sur YouTube. Je ne l'ai pas non plus. On va trouver ça.
Faut fouiller.
Ben, en fait, il est sur YouTube, mais je sais pas s'il y en a qui savent, mais des fois, il y a des gens pour éviter... OK, faut comprendre que YouTube a des moteurs de recherche mm-hmm. automatisés, donc ce n'est pas des humains mais des bots qui traversent toutes les vidéos qu'on met en ligne, qui va décoder surtout la musique mais aussi quelques vidéos et films, qui va les retracer comme ça quand tu poses des vidéos, parce qu'évidemment au nombre de vidéos qu'il y a sur YouTube, ça peut pas être toujours des humains derrière qui regardent, ah, il me semble ça me dit quelque chose. Fait que il y a des trucs que les gens trouvent, mais c'est pas des trucs super le fun. C'est-à-dire qu'on va changer...
C'est en grec ou...
Oh, oui, on va changer la qualité de l'image, ouais. On va zoomer dedans, on va rajouter du fade, on va rajouter... Fait qu'il existe en entier sur YouTube, mais dans une qualité absurdement médiocre. Donc, je trouvais pas que ça valait la peine de le partager. J'ai partagé seulement la bande-annonce sur le blog au www.lesoubliettes.ca. Mais là, on va se le dire, la bande-annonce, t'es capable de trouver ça sur YouTube, là. Mais, ouais, ça pique ma curiosité. Alors, je vais le chercher, ce film-là.
Ça vaut réellement la peine.
Cool. Puis tu dis qu'il y a une version longue. Les DVD que tu peux trouver, c'est des bootlegs.
Moi, la version que j'ai vue, elle venait d'un DVD. C'est la version courte. La version longue, elle a été diffusée à la télévision. Est-ce qu'il existe quelque part un genre de Simon Lacroix qui aurait en main l'enregistrement télévisuel? C'est fort possible. Parce que, très brièvement, Bob Dylan a réalisé deux films,
ouais.
Dont un d'une durée de 4 heures qui est jamais sorti en vidéocassette ni en DVD, Rinaldo and Clara, et la seule façon de le voir, ça c'est quand même extraordinaire, c'est à partir d'enregistrements télévisuels parce que le film a été diffusé sur petit écran en Europe dans les années 80-90. Il y a quelques diffusions éparses, il y a eu des gens qui ont eu la brillante idée d'en profiter pour l'enregistrer. Donc, ce qu'on voit, c'est littéralement un enregistrement télé. Évidemment, la qualité est pitoyable, mais comme c'est la seule façon de voir le film, on va pas s'en priver.
Ah oh ouais, c'est intéressant. Hey, merci Simon pour la belle découverte. J'ai hâte de voir ça. Là. Moi aussi, tu me donnes faim. Sauf que, bon, en ce moment, je peux juste manger du mou. Là.
Oui.
Fait que je vais me taper...
Catch Fire n'est pas un film mou.
Non, c'est ça. Je suis obligé de regarder Les Dangereux, Camping Sauvage, puis Hot Dog. Mais anyway. Ceci étant dit, merci beaucoup. Simon, rappelle-nous la date de sortie de ton livre.
C'est prévu pour juin. juin, donc il devrait être disponible en juillet au Québec, dans les bonnes librairies.
Puis ça va être quoi le titre?
Series of Dreams, Bob Dylan et le cinéma.
Hey, génial. Merci beaucoup, Simon. On va prendre une petite pause musicale avec une chanson que tu as suggérée. Ceux qui me suivent avec Ars Moriendi l'ont déjà entendu parce que j'ai terminé l'épisode de Albert Fish avec ça, justement sous la suggestion de Simon Laperrière. On lui en remercie. Mais comme c'est sa préférée, on peut pas passer à côté. Cette fois-là, par contre, je vais vous faire découvrir une version live parce que... Oups, ça a fait couper sec, ça. Parce que Bob Dylan live, il y a une certaine magie dans l'air. Puis bon, je te dis pas qu'en MP3, tu vas la sentir, mais on va quand même essayer de capter cette magie. On vous revient tout de suite après aux oubliettes sur choc.ca.
And the water is high. There's a soft cotton dress on the line hanging dry. We're just wide open out of the tree. Bump over bubbles from a hurricane breeze. Goodbye. Not even a note. She gone with the man and the long line. Somebody's seen him hanging around. Not that old dad's home on the outskirts of town. She looked into his eyes when she stopped him to ask. He wanted to dance. He had a face like a man. Somebody said from the Bible he woke. Was dust on the man in a long black coat. Now the preacher was talking. That's a sermon he gave. Saying every man's conscience is vile and depraved. It ain't easy to swallow, and it sticks in the throat. She gave her heart to the man in the long line. There are no mistakes in life, some people say.
Run, Francesca. Run for your life.
But now, you're trapped in a snowbound mansion, your husband dead, and you are next unless... unless...
You'll like My Mother, a thriller with a special kind of tension and terror. You'll like My Mother, a thriller from Universal Rated PG.
Oh yes, vous avez catché, c'est la chronique d'horreur! C'est à toi, Eric. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu de l'horreur?
Hey, il se passe bien des affaires.
Hey, non-stop.
Hey, non-stop, ça arrête plus.
On n'a pas de pause, jamais.
Hey, mais écoute, non, on dort plus. à ce point-là. Mais j'ai encore, j'ai pas mes dents sagesse moi non plus, donc je suis correct.
Ah, yes! Allez chier.
J'en ai plus. Je vais faire arracher une dent, cela dit, puis c'est vrai que c'est pas agréable.
Non, c'est pas agréable. Moi non plus. Bref.
Qu'est-ce qui se passe de neuf?
Écoute, une nouvelle toute fraîche, une nouvelle bonne annonce pour le film Revenge, un film de Carolie, je vais massacrer son nom de famille, là. Fargat. Ça doit être ça. Je m'excuse à l'avance. Là.
Ah ouais, nous écoute, là. Ils sont pas contents.
Non, je sais. Je m'excuse, Carolie. Il y a déjà eu une nouvelle. Excuse-moi. Il y a déjà eu une bande-annonce pour ce film-là. Mais là, il y en a une nouvelle avec ce que je trouve extraordinaire, avec les commentaires haineux, sexistes des hommes par rapport à ce film-là. Donc, tout le long de la bande-annonce, ils mettent, au lieu de mettre les commentaires des critiques, ils mettent les commentaires sexistes. Je trouve que ça rajoute la puissance au film.
Là, ça, c'est des commentaires, genre, que les gens ont mis
exemple,
en ligne?
Exactement. Exemple, les femmes devraient rester dans la cuisine.
Oh, mon Dieu.
Ce genre de commentaires-là.
Ben voyons, ça, en 2018, c'est le, ça n'a pas de bon sens.
Ça, c'est le plus soft. Je veux que vous alliez voir la bande-annonce sur le site d'Horreur Québec. Et j'adore celui de la fin. C'est un film qui m'indifférait un peu, mais là, avec cette nouvelle bande-annonce-là, je suis vraiment curieux de la voir. Et il sort le 11 mai au Cinéma du Parc et en vidéo sur demande. Donc, allez voir ça sur Horreur Québec. C'est sorti aujourd'hui.
Excellent, excellent.
Autre grosse nouvelle, en fait, Fantasia qui s'en vient bientôt. La 22e édition qui va avoir lieu du 12 juillet au 1er août prochain, a annoncé ses premiers films. Donc, on avait déjà parlé de Summer of 84 et Montréal Dead End. Et là, on annonce pour le prestigieux Cheval Noir d'honneur. Ça va être Joe Dante.
Oh yes, quelle belle annonce. Hein?
Oui, ça c'est très excitant.
Peut-être qu'on peut rappeler aux auditeurs qui connaissent moins les noms de réalisateurs qui est Joe Dante. Peut-être, lance-le 3-4 titres de même. Okay.
Il a fait Gremlins,
ben oui.
1 et 2. The Howling, Hurlement. Et il a fait, moi, un de mes films préférés, c'est Les Banlieusards, The Burbs.
C'est tellement bon.
The Burbs, ouais.
C'est tellement bon, The Burbs.
Moi, c'est un de mes préférés. Aussi.
Oui, ben oui. Piranha.
Oui, Piranha, oui. Ouais.
Bref, on l'aime, Joe Dante.
Tu sais, le film Aventure à l'intérieur, c'est tout ça? Inner Space.
Oui. Attends. Inner Space. Non, t'as raison. Inner Space. Ça, c'est le vieux film, je pense, des fin 80, début 90, où des c'est comme un film de navette spatiale, mais qui est réduit.
Inner Space.
Oui, merci. J'étais pas loin.
Qui est réduit de façon microscopique, puis qui est envoyé dans le corps. Fait que les gens vont visiter l'intérieur du corps humain, en gros. Ouais. Là.
C'était bon, ça.
C'était cool. C'était bien réalisé.
À mon souvenir, c'était
bon.
Il a aussi fait un très joli film avec John Goodman qui s'appelle Matinée, qui est un hommage au cinéma de science-fiction des années 50.
C'est très bon.
C'est très bon, ça aussi.
Et si je peux me permettre, pour l'avoir rencontré il y a des années de ça au TIFF, c'est un homme éminemment sympathique.
Ouais.
Très près de ses fans. Ça va être une belle soirée.
Oh, nice. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, tout à l'heure, avec Olivier, je mentionnais que occasionnellement les gros invités comme ça de Fantasia, ben ils sont vieillissants puis ça leur tente pas de parler à personne.
Ils sont inaccessibles.
Comme Toby Hooper, j'avais été grandement déçu de sa visite et je pense qu'il l'avait même fait passer backstage pour pas avoir à traverser le monde. Je suis comme, ben là, c'est tes fans là, prends deux secondes, là. c'est pas obligé de signer des autographes, mais fait, ça me rassure. Peut-être que Joe Dante sera plus proche du Guillermo del Toro qui lui s'était donné beaucoup, corps et âme même.
Ouais. Wow, ça, en ce que ça promet, mais il va être là pour la projection du documentaire Nightmare Cinema, qui va être présenté en grande première mondiale. Il va y avoir aussi Mike Garris, qui a réalisé The Stand. Là, je vais faire mon hommage à Olivier, là. Alejandro Brugues.
Ben, je suis bien meilleur que ça. Alejandro Brugues.
C'est meilleur que ça. On a trouvé un pire que toi.
Essaye-le toi aussi. On va tout l'essayer.
Alejandro Brugues.
Alejandro Brugues.
Ça doit être
je vais le dire autrement, moi. Alejandro Brugues.
Je pense que c'est plus ça, ouais.
qui a réalisé One of the Dead.
Oui.
Ah oui, OK. Ouais, ouais.
Et l'autre, là, ça va être encore pire.
Voyons. Et...
T'es-tu capable de m'aider?
Rue Kitamura.
Ouais, Kitamura. T'es bon. Qui a réalisé Versus. David et David Slade qui a réalisé 30 Days of Night. Donc, toutes ces personnes vont être là également.
Ça, c'est cool.
Ouais, ça va être pas mal cool. Ben j'ai bien hâte de voir ça. Petit film aussi que j'ai hâte de voir, c'est The Witch in the Window qui a été réalisé par Andy Meaton. C'est le co-réalisateur et co-directeur de, d'un petit film fort sympathique que j'avais aimé, We Go On, un film de fantôme.
Oui.
J'avais trouvé ça fort sympathique. Donc, il va avoir ça aussi. Ça parle, c'est un homme divorcé qui va aller avec son fils de 12 ans réparer une ferme dans le Vermont. Et il y a une femme qui est décédée sur les lieux, donc elle ne veut pas partir.
Ah, OK.
Donc, je suis vraiment curieux de voir ça.
Introduction classique, là, ouais, de film de fantôme, ouais, mais justement, je te dirais, en 2018, quand c'est très classique comme synopsis, je me dis, OK, où est-ce qu'ils vont nous surprendre? Ouais. Fait que c'est là que ça attise ma curiosité dans ce temps-là.
Oui,
quand il y en a trop, là, quand il y a trop d'originalité dans le synopsis, des fois, là, ça me brise un peu.
Puis quand c'est dans le rural, comme il parle du Vermont, moi, ça me, j'adore ces films-là, comme Indiana, qui était l'an passé à Fantasia. Petit film rural.
Comment qu'il disait, là, Southern Gothic, un peu?
Ouais. Ça me parle beaucoup. Il y avait Anguish aussi dans la même veine.
C'est vrai, oui.
Ça me parle beaucoup.
Ben, American Gothic, d'ailleurs, qui est un peu ça aussi, ouais. Mais moins paranormal, là, plus proche du slasher, un peu, là.
Ouais, puis tu sais, des films lents, un peu.
Ouais.
Mais slow burner.
Slow burner, ouais.
Ouais, exactement.
Cool.
Il va y avoir Under the Silver Lake, le nouveau film du réalisateur de It Follows.
J'ai tellement hâte à ce film.
Oui, moi aussi.
Il est très attendu.
D'ailleurs, ce film est présenté dans quelques jours en compétition officielle au Festival de Cannes. Donc, c'est un gros coup pour Fantasia que d'avoir mis la main sur ce titre.
On est content. Il va y avoir aussi celui qui a réalisé le film culte Ozu.
Ozu, ça c'est bon.
Anagatami.
J'ai envie de la voir sur grand écran.
Donc, son nouveau film qui va être à découvrir. Il y en a plusieurs, là, je les nommerai pas tous. Il y a Anna and the Apocalypse, un film de zombies qui risque d'être assez drôle. Dans la vague de Fantasia, souvent on a des films gore et.
Ouais, gore humoristique un peu.
Ouais. Ça va être dans ce même genre-là. Et aussi, il y a Puppet Master de Lilith Reich.
Ouais. C'est quoi ça? C'est le 128e de la série?
Peut-être,
le
109.
Hey, on parie-tu que les marionnettes vont être tout sales avec plein de traces de doigts dessus parce qu'elles sont trop vieilles?
Il y a Barbara Crampton qui est dedans. Yudo Kier.
Ouais.
Hey, c'est vraiment mon amant.
J'ai entendu de très, très bons échos sur ce film. Il semblerait que c'est une très, très, très belle surprise.
Pour vrai?
Puppet Master,
ce serait plus un hommage à la franchise qu'une suite.
OK.
Ah, OK. Ben, déjà, ça peut peut-être me remonter parce que moi, là, après le 3, j'étais plus capable.
Ah, mais le 3,
c'est terrible, le 3.
Le premier, par contre, est vraiment bien.
C'était correct. C'était bien.
Cinéma straight to video, il y a quelque chose de très agréable.
Mais disons que Full Moon, ils m'ont perdu un peu avec les années. Là. Des fois, de temps en temps, il y avait des bons coups, mais rendu. Ouais, mais y a-tu quelque chose qui vous a marqué de Full Moon post-90?
Pas en ondes, mais. Non. Ouais, je me suis... Head of the Family était bien le fun.
J'ai pas vu
Bloodlust. Ah, les Bloodlust.
Radu avec ses doigts.
C'est quoi l'autre, les subspecies?
Subspecies.
Et les Demonic Toys.
Oui.
Qui ont déjà affronté les Puppet Masters, d'ailleurs.
Oui, il y avait Versus.
Mais il y avait pas. C'était quoi le petit, là?
Le Tall Man.
C'est
Demonic Toys versus Tall Man.
Oui, qui venait d'une autre planète, qui est toute minuscule avec son petit fusil laser. Ouais. C'est tellement absurde.
Moi, je trouve ça génial. D'ailleurs, Puppet Master, qui lui n'est pas à Cannes, c'est vraiment étrange.
C'est
Thierry Frémaux. Franchement. Tu voulais des vedettes sur le tapis rouge.
Bref, la liste complète de ce qui est sorti pour l'instant sur Québec, allez-y. Et là, on va parler de mon dada, les jeux vidéo. Il y a une nouvelle bande-annonce pour le jeu Vampire.
Oui.
Ah ouais,
on a bien hâte d'avoir. Oui.
Je suis curieux.
C'est un jeu d'action RPG. Mm-hmm. Vous jouez un chirurgien dans Londres. Début du 20e siècle, où est-ce que la grippe espagnole fait des ravages. Et le personnage, c'est Jonathan Reed, qui est de retour dans les vieux pays, se fait attaquer par un inconnu et se voit transformé en vampire. Allez-vous tenter de résister à vos pulsions ou accueillir à bras ouverts vos nouveaux pouvoirs? Donc, on va être confronté à des choix moraux. Est-ce qu'on tue les gens? Est-ce qu'on...
Ah, j'aime ça.
Ça me fait penser un peu à...
c'était quoi dans le temps, Mascarade qui était sorti ou
je l'ai pas, ben il y avait ça, il y avait ça aussi, il y a eu, ben je dirais pas une mode là, mais on a eu une couple de jeux comme ça, Inhuman, non pas Inhuman, c'est quoi le jeu là que t'as des pouvoirs d'électricité puis tu voles quasiment là,
Infamous.
Ah oui, ouais. Infamous aussi, il y avait ce volet là où tu pouvais choisir d'être bon ou méchant. Oui. J'aime ça, moi, cette approche.
J'aime ça, mais tu vois, Infamous, je trouvais que l'impact était pas si marqué que ça.
Effectivement.
Et de retour à Vampire, j'imagine que les choix vont avoir des répercussions sur le déroulement du jeu.
J'espère. Parce que là, on n'a pas ce grand détail. Oui.
Parce que trop souvent, on dit ah oui, ça va. Faut que tu fasses des choix, mais ça n'a aucune répercussion. Ça, c'est dommage là, que ça arrive.
Effectivement. Puis dans la nouvelle bande-annonce, on voit plus de gameplay.
Oui.
C'est une espèce de mélange de God of War avec Dark Souls. Ouh. Parce qu'il y a une approche vis-à-vis des personnages. Est-ce que je l'affronte directement ou pas? Un peu comme Dark Souls, puis c'est très sanglant, évidemment, on aime ça.
C'est un petit peu un hack and slash à ce que j'ai vu aussi, là.
Oui.
Le dernier jeu de vampire que j'ai aimé, là, on remonte à loin.
Ah, Dracula au Super Nintendo.
Hey, non, c'était mauvais.
C'était très mauvais.
Voyons.
J'avais joué à ça au Genesis dans le temps, là. C'est Blood Rain. Que moi, j'étais fan fini de ce jeu-là.
Ah
là.
Oui, c'est vieux, ça.
Ouais, oui, oui.
Moi, j'aime mieux les films, mais...
Oh, come on, les films, my God. Mais oui, le jeu vidéo. Fait que
Non, mais tant qu'à jouer des bons jeux de vampires aussi, les Castlevania,
les Castlevania, puis l'autre, le avec les cheveux blancs, là. Mais ça me l'est... voyons...
Final Fantasy?
Non, c'est un vampire, là, qui aspirait le sang de loin.
Ah, ça me dit rien.
Comment ça s'appelait, ça?
Oh, il y avait une épée. Oui.
Blood Omen.
Oui.
Blood Omen, oui,
ah,
c'est
oui,
ça.
Blood Omen.
Fun, ça.
C'est vrai, quand t'as dit ça, que t'as tellement une image étrange, ça, pour ça.
C'était vraiment bon.
Et le jeu sort bientôt, il sort le 5 juin, une semaine avant le E3.
Oh,
qu'on va vous parler vraiment à fond sur Horreur Québec. On va surveiller les jeux d'horreur. Je pense qu'Olivier, tu voulais nous parler peut-être d'un...
Oui, tu m'as parlé d'un jeu tantôt.
Jeu que tu m'as montré tantôt.
Il y a un jeu, j'ignore un peu, je connais pas l'histoire, rien du tout. Là, j'ai vu la bande-annonce aujourd'hui, qui est apparue comme ça, puis que j'en reviens pas, que je savais pas c'était quoi ce jeu-là.
C'est le fun quand ça juste un c'est le fun quand ça arrive. Je me permets une petite parenthèse, ayant vu Avengers aujourd'hui, en sortant de la salle avec mon ami, je disais, je vais pas dire de spoilers, mais il y a des personnages peut-être qui meurent. Mais je disais, ce qui marche pas, c'est que sachant déjà à l'avance les suites à venir, tu regardes le film en te disant, ben lui c'est sûr qu'il meurt pas, ben lui non plus. Et on perd ça, je trouve, à cause du flux d'informations.
On nous annonce trop tôt.
C'est ça, donc c'est fun justement quand il y a un jeu vidéo qui sort, un film qui sort, et t'es comme, on n'a jamais entendu parler de ça.
C'est ça.
Ça, j'adore ça.
J'en venais pas, puis écoute, ça a l'air d'être un...
cool.
Ça s'appelle Atomic Heart.
Atomic Heart.
On dirait que c'est un... De ce que j'ai regardé, là, ça ressemble à un genre d'espèce de Bioshock beaucoup plus sanglant. Un petit mélange de Fallout.
Far Cry un peu, là. Dans la map.
Oui, dans la map.
La map a l'air gigantesque.
Il y a beaucoup, beaucoup de gameplay dans la bande-annonce.
Ça a l'air quand même assez horrifiant aussi. Oui, il y a beaucoup de...
C'est très violent.
C'est très gore, c'est très violent.
Violent dans le sens...
Il y a de la science-fiction.
Je te crève les yeux. Ouais. C'est pas juste... Non, je te crève les yeux.
Ah oui, on a vu de l'empalement. Mais tout ça dans une ambiance qui est très burlesque.
Oui, et puis il y a une chanson, une soundtrack qui joue en arrière d'une chanteuse espagnole. Ça rend ça... Puis c'est... Visuellement, c'est très beau, un petit peu cartoony, un petit peu.
Oui. Ben, c'est ça, on dirait une espèce de science-fiction de carnaval,
une réalisation,
d'horreur.
Que ça soit autant le décor, le setting, c'est très artistique comme jeu, c'est super beau.
Ouais.
J'ai juste vu deux fois, faut que je regarde tout à l'heure puis mette pause des fois parce que il y a beaucoup de stock. Mais allez voir la bande-annonce de Atomic Heart, pour ceux qui l'ont pas encore vu sur Facebook, vraiment, moi, ça m'a jeté sur le cul. Je suis vraiment, vraiment hype.
Est-ce qu'on sait quand ça sort?
J'ai aucune idée. C'est bande-annonce.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on sait les plateformes?
Ah, probablement. Ça va être un jeu à grande échelle, celui-là. Là. Juste savoir la qualité d'image.
Ouais, c'est ça.
Ça a dû coûter cher. Là. Ouais.
Cool. En passant, Vampire sort pour PS4, Xbox One et PC. J'avais oublié de le mentionner. Bref, on a bien hâte. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Écoute, il y a deux séries qui sont confirmées. Westworld, qui...
Ça revient. Ouais, on... Simon, c'est un fan, là.
Ah, ouais, les...
Ben, fan. Ah,
oh, les deux. La troisième.
Ouais, 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 je regarde. C'est...
Ben, la deuxième saison vient à peine de commencer qu'on a tout de suite confirmé la troisième saison.
Ouais, et là-tu commencé la saison 2?
Je l'ai pas commencé. J'ai enregistré... Je pense que j'ai 4 émissions d'enregistrer. Je vais...
Ben, 4, ça, t'as des sources qu'on a pas parce qu'il y a juste 3 épisodes qui sont sortis. Je me suis trompé. Moi, j'ai adoré la saison 1. Vraiment.
Moi aussi, j'ai adoré.
Que c'est un concept qui était bien amené, mais quand la saison 1 s'est terminée, je me disais, où est-ce qu'ils peuvent amener ça ailleurs? Est-ce qu'on n'aurait pas ici à faire un récit qui aurait gagné à rester clos? Quand c'est terminé, okay, là-dessus. La saison 2 commence et les deux premiers épisodes, j'étais déçu, mes craintes se confirmaient. Je me disais, okay, ça n'a aucune idée où ça s'en va. Et l'homme en noir, maintenant qu'il a obtenu ce qu'il voulait, eh ben, il ne sert plus à grand-chose, okay, pour l'instant. Et comble de l'insulte, Dolores est devenue une caricature d'elle-même où elle pose des dialogues pour nous rappeler que c'est une femme forte qui sont complètement horribles. J'étais très, très, très déçu, mais ayant confiance en la série, je me suis dit, je vais quand même continuer. Et ce matin, j'ai regardé l'épisode 3. Enfin! Okay. Ça reprend son souffle, ça s'en c'est va bon dans la direction qu'on attendait, en s'ouvrant d'ailleurs sur un autre monde. Okay. On en voit un, là. On est okay intégré dedans. Et je me disais même, ça aurait dû commencer sur okay cet épisode-là.
Mais moi, tu sais, je t'avoue, la première saison, les 5 premiers épisodes, ça m'a pris un peu de temps avant d'embarquer. À partir du 6e, ouais, là, j'étais accro, oui, puis là, oui, c'est une montagne russe. Puis... Fait que ça, on dirait que ça m'étonne pas que les premiers épisodes sont un peu décevant.
Ben, c'est qu'on sent surtout un scénario qui se cherche, qui sait ouais pas exactement quelle direction prendre. Mais si ça demeure sur cette montée-là, je pense qu'on on va avoir une belle saison 2 et une très belle saison 3.
Super. Ça, j'ai bien hâte de l'avoir. Puis la troisième saison, ben, évidemment, il n'y a pas de date à rien.
Bon, on va commencer c'est par ça finir la deuxième.
Ben, exactement.
Le plan d'HBO, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que Game of Thrones achève. Donc, ils ont besoin d'une nouvelle série dramatique à très, très grand déploiement. Ouais. Okay. Et ce serait Westworld qui prendrait le relais.
Ah, OK. Intéressant.
Il faut dire que la musique, moi j'ai adoré la musique version saloon.
Oui.
De
la chanson de Radiohead.
Oui, Radiohead.
C'est magnifique.
En fait, la Exit Music for a Film, le dernier épisode, est complètement malade. Ça donne tout le sens et c'est assez puissant.
Ah, cool, cool.
Oui, et autre série confirmée, c'est pas une surprise, là, Santa Clarita Diet,
ouais,
pour
ouais
Netflix.
Il faut que je regarde ça, j'ai même pas commencé ça
j'ai
encore.
J'ai pas commencé la deuxième, je suis même pas dans le mood.
Ah, ben il y a
la deuxième
timing,
est bonne.
Hein?
Moi, j'ai. Tu sais, c'est sympathique. On en avait parlé.
Oui,
on
j'avais regardé ça.
C'est genre de série, t'écoutes un peu le cerveau off. Puis la deuxième saison, c'est encore plus burlesque.
OK.
Ouais. Fait que j'ai hâte de voir la saison 3 s'ils vont regarder cette tangente-là de burlesque. Vraiment poussé à l'extrême.
Ouais, j'ai hâte de voir ça, moi.
C'est fort sympathique. Pour Pet Sematary, le
ah
remake.
Ah oui, hein? Hey, sac.
Ils ont trouvé
ils
leur...
Ils vont scraper notre classique!
Mon Dieu,
l'avez-vous revu récemment, Pet
oui
Sematary?
Moi, je le regarde au moins une fois par année, oui. Moi.
Moi aussi,
j'ai trouvé que ça l'a très mal vieilli.
Il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça.
Ouais.
Certaines décisions
dans la réalisation, effectivement, mais vieillissent mal, comme les flash photos quand ouais le bébé meurt. Ça, tu fais plus ça aujourd'hui, c'est dégueulasse, ouais, là. Mais dans l'ensemble, ça reste un très bon
les
film.
Les acteurs ouais sont très mauvais.
Non,
ça,
je suis pas d'accord.
J'avais revu sur grand écran il y a quelques années, durant un festival Stephen King. C'était le remake de Carrie, j'avais déjà vu, qui est correct d'ailleurs en passant. Bon, on va pas revenir là-dessus. Après, c'est Creepshow qui c'est jouissif de voir en plus sur grand écran une première fois après Pet Sematary. Et je suis pas resté. J'étais comme c'est. Je préfère garder mes souvenirs d'adolescence,
ouais, hein?
Principalement à cause du jeu des acteurs. Et considérant la qualité du roman, moi, je suis ouvert à un remake, à 100%.
Okay.
Je pense qu'il y a quelque chose
oui, ben
de
moi,
très bien qui peut
moi,
être fait.
C'est ça, l'histoire, je l'aime beaucoup, donc ouais, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec, en espérant qu'ils ne sortent pas une espèce de Poltergeist encore. Là.
Ben, je pense que It a comme imposé un seuil de qualité pour les adaptations de Stephen
ouais
King.
La barre a monté. Là,
oui, c'est ça.
Les petites quand même, hein? De Stephen King.
Ouais, les téléfilms, là, ça, on a fait le tour. Là.
Donc, parenthèse, refaites les Langoliers, s'il
oh,
vous plaît. Quel gâchis.
Moi, je veux revoir les Tommy
Knockers.
Les Tommy Knockers.
C'était aussi mauvais.
Ouais. que les Tommy Knocker. Hey, ça, c'était drôle. Tu sais, là, oui. Il faisait juste rajouter du verre par-dessus
puis
l'image.
Il s'arrachait les dents, tu sais,
puis tant qu'à y être, le film est ressorti l'an passé, mais pas grave. Refait de Dark Tower.
Seigneur, oui.
Hey, ça, j'ai même pas envie de le voir. Ça a tellement l'air plate.
Il va le faire
ouais,
série avec ça.
Ouais, mais ce sera pas en lien avec le film.
Ben, si je me trompe pas, c'est avec la même acteur qui jouait dans. Mm. Ouais.
OK.
Si la rumeur se confirme, là, apparemment, ce sera le même acteur.
Inversement, le film a tellement été un flop que j'imagine.
Personne
ne
s'en souvient, de toute façon. C'est peut-être l'avantage.
Mais Dark Tower, j'ai pas comme 5 livres là-dessus ou 4 livres.
Oui.
Il y en a plusieurs. 8. Il y a 8 livres.
Ah, quand même.
Wow. Quand même. Puis on connaît la plume de Stephen King. Là. Ça doit être des briques. Ouais. Chacun une méchante brique. Puis il rentre d'une pièce puis il décrit un cadre pendant 28 pages. Là. Ouais, ouais.
Bref, tout ça pour dire. Qu'ils ont trouvé l'acteur qui va jouer le personnage de Jude Crandall, qui était interprété par Fred Gwynn. C'est John Lithgow.
C'est pas Fred Gwynn.
Mais comment tu le prononces?
J'ai essayé de pas rire, là. Mais...
Non, ben, je t'entends.
Comment tu le prononces?
Ben, Fred
Essaye, vas-y.
Fred Gwynne. On va dire Gwynne.
Fred Gwynne. Juste comment c'est sorti, c'était super cute.
Ok, ben, tu vois, gars, je te dépasse largement. Je l'assume, là. Je l'assume totalement.
All right.
Bref, c'est John Lithgow.
Oui.
Qui jouait dans Raising Kane, dans
Harry
et Anderson.
Harry et Anderson.
C'est ça que je
voulais dire.
Oui, quand même, qu'on connaît
Harry et Anderson.
Oui, un classique.
Qui réalise? Est-ce que c'est toujours le réalisateur de It? Parce qu'il avait été attaché au projet pendant un bout de temps.
Non, le film réalisé par Dennis Widmeyer et Kevin Kolsch.
Ok, ça
probablement qu'en googlant vite vite, on fait ah oui, c'est.
Ça, c'est-tu deux gars qui me disent rien, ça?
ça devrait être ça.
Je pense que c'est justement, ouais.
Donc ça, ouais.
Tu veux-tu rire de moi?
Mais là,
je vais checker,
c'est.
Là, c'est. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est l'épisode de recherche Google. On n'arrête pas d'aller fouiller ce Google. Qu'est-ce que c'est ça?
On a un rechercheur pourri.
Dennis Widmeyer.
Peut-être juste taper Pet Cemetery.
Ouais, c'est ça. Ça va
ouais,
être,
t'inquiète ça. Mais tu parlais qu'il cherche. Continue, toi.
Ça va être en 2019. Aussi.
Une petite dernière.
Ouais, une petite dernière.
Ouais.
Est-ce qu'ils vont faire un remake de Pet Cemetery 2?
Oh!
Bonne question.
Un des réalisateurs qui a fait un film qui avait joué à Fantasia que j'ai beaucoup aimé, vraiment aimé, Starry Eyes.
Ah oui, oh, oui, c'est pour ça que ça nous a de quoi. Oui.
OK.
Puis Holidays,
ouais.
C'était pas l'anthologie.
L'anthologie, oui.
Mais, OK. Okay,
cool.
Je suis curieux.
Ça promet.
OK, petite nouvelle vite. Happy Dead 2. Happy Dead 1, que moi j'avais trouvé fort sympathique.
C'est tellement le fun.
Attends, quoi ça? Happy Dead.
C'est le jour de la marmotte. Ça.
Ah, ouais. Ah oui.
T'as pas fini?
J'ai commencé. J'ai peut-être écouté une heure. Je crois honnêtement que j'étais juste pas dans le mood.
Ça arrive. Ça.
Mais Olivier, t'as pas le recommencé. C'est le seul idée du film que j'ai fait pour toi.
Mais
c'est le fun comme film, c'est sympathique.
Je veux lui redonner sa chance, ouais. Ça, c'est sûr et certain. Ouais.
Moi, je trouvais que ça se prenait pas au sérieux.
J'avais un petit peu plus de gore, tu sais, parce que c'est comique, c'est drôle.
Ouais.
Permet de vous dire, tu sais, qu'elle crève souvent le let's go, même quand on
est en puis Jessica Roth, je trouvais qu'elle avait l'air d'avoir du fun.
Oui.
Vraiment. Puis c'était contagieux. Donc, cool. Il va y avoir un deuxième.
Excellent.
Qui elle est de retour dedans, évidemment. Ça a été confirmé. Et on va. Vraiment plus aller dans les théories, pourquoi elle recommence sa journée. On va aller plus là-dedans avec un scientifique.
Je suis pas sûr, j'accroche là.
C'est comme l'idée d'expliquer dans une suite à être follow, c'est quoi la créature. Je veux dire, ça enlève tellement de charme.
Mais bon, on va donner la chance au coureur. Puis, petit fait intéressant, le film avait été réalisé avec un budget de 5 millions. Il a fait 123 millions de dollars à l'international.
Shit.
Quand même. C'est assez impressionnant.
Ouais, c'est des films qui sont très rentables, un peu comme les The Purge. C'est des films qui coûtent rien à faire, mais qui font des... qui connaissent des succès immenses.
Mais si vous ne l'avez pas vu, voyez le premier. Contrairement
cool. Hey, merci beaucoup, Eric.
Hey, de rien.
Là, ce qu'on entend en background, c'est une chanson de Morane qui est décédée cette semaine. Et moi, je ne me disais rien, Morane. Je voyais ça passer. J'étais curieux. J'étais allé jeter un coup d'œil et j'ai réalisé que c'est... Oh boy, c'est elle qui joue. Pagué la pagaille, ben oui, que j'avais classique. Complètement oublié. Ben oui, on va prendre une minuscule pause musicale et on vous revient avec une dernière annonce aux oubliettes.
Hélicoptère menant le troupeau, Jérémy de Roncevaux par Monceau.
Alors, on est déjà de retour. Il nous reste juste un petit deux minutes. Excusez-moi, les boys, hein, je vous ai pris
ce petit ça. On entend Olivier de parler de sa première date.
Malade.
La semaine prochaine, on va
dans les détails croustillants.
Il y a un clip qui est sorti il y a deux jours. Mm. Et ça faisait longtemps qu'un clip ne m'avait pas jeté à terre comme ça. Je me devais d'en parler. Puis là, aussi, j'ai mis une note. OK. Excusez-moi, je voulais être sûr de nommer le réalisateur. Moi, j'ai été impressionné. OK, c'est un clip qui est sorti, interprété par Childish Gambino, qui est un comédien que vous avez vu souvent, mais c'est... On pourrait dire que c'est un fantaisiste. Il est pas juste acteur, il fait de la musique aussi. Il touche à tout. C'est un artiste très impressionnant quand on se met à plonger dans sa carrière. Mm-hmm. Et là, il a sorti une nouvelle tune, This Is America. À sa sortie, hier, vers la fin de la journée, il était à 22 millions de views. Ce matin, il était à 35, je pense, et juste avant de rentrer en onde, il était rendu à 44. Quand je vais sortir de l'émission, il va être rendu à 46 ouais. millions de views. Ça, c'est comme une critique coup de poing en ce moment. C'est hallucinant. C'est une critique sur le racisme, sur la gérance des armes à feu aux États-Unis, sur les réseaux sociaux qui nous aveuglent un peu, qui nous détournent l'attention de tout ce qui se passe de catastrophique en ce moment aux États-Unis. C'est une réalisation de Hiro Murai qui est un réalisateur de vidéoclips qui en a fait beaucoup. On a regardé ça, moi puis Olivier, un peu sa vidéographie avant l'émission, puis il y en a beaucoup. Oui. Là. C'est quand même assez impressionnant. Je le dirai jamais assez, là. Allez regarder ce vidéoclip-là. Là, je vais faire jouer on va terminer aujourd'hui l'épisode avec la chanson, mais la chanson, on aime ou on n'aime pas, c'est une chose. La chanson en elle-même, c'est une chanson. Mais avec le vidéoclip, là, ça prend un tout autre... C'est une débarque. Moi, ça m'a jeté à terre. Ça fait 10 fois que je le regarde aujourd'hui, puis j'ai encore envie de le regarder. Il y a tellement d'analyses à faire dans ce clip-là. Je vais juste vous donner quelques cues. Remarquez bien le respect qu'on a pour les armes à feu et l'absence de respect qu'on a pour les... Je vais juste dire victimes, OK? Je ne veux pas rien spoiler. C'est impressionnant, vous allez remarquer que l'arme à feu, on vient toujours la chercher dans un petit foulard rouge, là, précieusement, mais les victimes, on les traîne comme si c'était un paquet, une poche de patates, c'est pas important. Remarquez bien les enfants qui sont sur les cellulaires pendant que c'est le cataclysme autour d'eux. Il y a beaucoup, beaucoup de codes, il y a beaucoup de trucs. Il y a des codes que j'ai pas encore démystifiés moi-même. Je vais vraiment faire des recherches là-dessus. Bref, Childish Gambino, faites juste écrire This is America sur YouTube ou n'importe où. C'est le
premier, c'est viral. Là.
C'est une explosion virale en ce moment. C'est sûr que ça va être en top de ligne. Allez voir ça.
Ça faisait longtemps qu'un clip avait pas suscité autant d'intérêt. Ah
oui. Ouais, la dernière fois, c'était de Héros à Zéro de Projet Orange.
c'est une joke. Moi, je conduis prudemment maintenant.
Ouais, mais t'as raison, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un vidéoclip.
Dans un
air
où que le vidéoclip est comme quasiment mort.
Ouais. Exactement. Donc, on a déjà plus le temps. Je veux au moins mettre la toune pour vous mettre l'eau à la bouche. Merci, Eric, pour tes dernières nouvelles.
Ben, de rien, je vais aller pratiquer mes noms.
Merci, Olivier, pour ta présence et d'avoir aidé Eric avec ses noms. T'as de l'expérience à cette heure. Et Simon Laperrière, merci beaucoup d'être venu nous voir. J'avais oublié à quel point c'était intéressant. Oui, t'as invité à l'émission. J'espère que tu vas revenir.
Ben, moi aussi.
J'aimerais bien ça. On s'en reparle. Sur ce, ben, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine avec d'autres babioles de l'univers du cinéma. Merci beaucoup d'avoir été là aux oubliettes sur choc.ca. À la semaine prochaine.
We just wanna party. living now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. I'm so dull like, yeah.